Salut Simon, ça va bien?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, ça va bien. J'ai quand même été surpris ce matin, il faut que je te l'avoue, du congédiement de Gérard Gallant. Moi, je trouvais que c'était un entraîneur-chef avec une très bonne réputation. J'avais l'impression qu'il y avait une bonne relation avec ses joueurs. Finale de la Coupe Stanley la première année. L'année dernière, n'eût été d'un drôle de 5 minutes, décerné à Cody Eakin. Peut-être que les Golden Knights auraient fait un plus long bout de chemin encore. Puis cette année, ben c'est un club qui déçoit, perdu ses 4 derniers matchs, mais ça n'a pas l'air d'être la catastrophe. Est-ce que tu as été autant surpris que moi?
Oui, très surpris, exactement pour les mêmes raisons que toi, Dan. Finale de Coupe Stanley la première année, l'année passée, comme tu dis, Saint-Nosé a vraiment été chanceux de battre Vegas. Moi, je pense que Vegas aurait fait un autre bon bout de chemin l'année passée. Cette année, je suis d'accord avec toi, une équipe qui joue, on va dire... une saison de montagne russe, mais là, à le congédier. Puis, tu sais, en plus de ça, là, je pense que les joueurs aimaient ça jouer pour lui. C'est très, très, très surprenant. Mais en même temps, c'est rendu comme ça. Le hockey, c'est une business, puis les GM veulent gagner. Puis, tu sais, on voit souvent les équipes copier qu'est-ce que les équipes ont fait dans le passé qui ont eu du succès. Dont les Blues de St. Louis l'année passée, congédient leur entraîneur, puis après ça, t'as Craig Berube qui arrive, ramène l'équipe sur un droit. Je sais, des fois, là, juste le fait d'avoir un nouvel entraîneur, une nouvelle approche, tu t'aides de ce boost-là, peut-être en partant. Puis comme on a dit la semaine passée, ben t'es mieux le faire tout de suite qu'attendre peut-être un autre mois qui soit trop tard, puis tu dis, ah, on aurait dû l'avoir fait peut-être plus au mois de janvier, on aurait fait les séries. Fait que c'est la nouvelle tendance, puis les équipes aiment ça, copier qu'est-ce que les équipes qui ont fait dans le passé, qui ont eu du succès, qui ont gagné la Coupe cette année, puis on voit beaucoup cette tendance-là cette année-là à cause des Blues de Saint-Louis l'année passée.
C'est George McPhee qui l'a embauché, Gérard Gallant, mais c'est M. McMahon qui le congédie aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Est-ce que tu as l'impression que le gars qui était DG adjoint, qui est devenu DG, veut un peu installer sa philosophie?
Peut-être. Je sais que quand tu arrives en poste, pis c'est rendu toi le boss, si on peut dire, du niveau sur la glace. T'aimes ça, amener tes gens, t'aimes ça amener les gens que tu peux faire confiance, que tu travailles avec. Peut-être ces deux. Tu sais, des fois, Dan, c'est pas à cause que l'entraîneur, si t'as pas une bonne relation en partant avec l'entraîneur, puis il y a quelque chose qui cloche, oui, tu vas donner une chance parce que tu arrives en place, mais peut-être ces deux personnes-là s'aimaient pas, voyaient pas les mêmes choses au niveau du hockey. Puis là, maintenant, vu que c'est lui le boss, ben il veut mettre l'équipe à sa main, puis peut-être qu'il y a un entraîneur là qui voyait dans sa soupe depuis un bout, puis ça prenait peut-être juste comme tu dis, 4 matchs de suite sans victoire, puis que l'équipe maintenant est sortie de la photo des séries, si on peut dire son 9e.
Ouais.
Puis ils font du surplace, c'est une saison de montagne russe, puis peut-être que là, ben ça y ouvrait une porte de faire ce changement-là, si on peut dire.
Mais tu sais ce qui est complètement fou, Simon, c'est que si à leur première saison dans la Ligue, les Golden Knights avaient eu l'affiche qu'ils ont cette année, tout le monde aurait dit « Hey, ça va bien leur affaire! » Puis à la troisième saison, une saison comme ça, ça fait perdre la job au coach.
Non, exactement. Tu sais, la barre était, comment on pourrait dire, était basse, là, la première année des Golden Knights dans la Ligue nationale. Je pense que c'était plus un plan de 3, 4, 5 ans avant qu'on espère faire les séries. Mais tu sais, on parle d'une équipe qui se bataille tout le temps pour une... Ben, ils se bataillent là présentement, ils se bataillent pour une place en série, mais l'année passée, étaient dans le picture des séries. Ils ont bien fait dans les séries. C'est une bonne équipe qu'on les voit quasiment favoris à faire un bout dans les séries. Là, maintenant, la barre est haute, mais c'est ça, on va dire la beauté du hockey, si on peut dire, la maudite business du hockey qui fait que c'est plate de voir un bon entraîneur comme ça, là, perdre son poste. Si vous voulez pas, c'est peut-être pas un francophone, mais c'est un entraîneur qui a grandi, si on peut dire, dans notre coin, puis qui a appris de l'école ici, fait que c'est vraiment plate de se voir qui se fait congédier comme ça, puis un peu de la même façon qu'il avait été congédié un peu la dernière fois. Tu sais, c'est plate de voir ça. Je pense pas que cet entraîneur-là mérite ça. Les gars l'aiment, puis il a l'air d'être bon.
Mais Simon, en même temps, il y en a 31 d'entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale. Il y en a pas 750 ou 800 comme des joueurs. T'es-tu en train de me dire que de la KHL à la East Coast League, en passant par tous les programmes de hockey junior, les programmes aux États-Unis, la Ligue américaine, les gars qui ont dû diriger dans la Ligue nationale ou un peu partout en Europe, peu importe où, le meilleur en date d'aujourd'hui, c'était Peter DeBoer. Ça se peut quasiment pas.
Écoute, moi, je pourrais dire ça. C'est ça un petit peu qu'on parlait. C'est la clique de la Ligue nationale. C'est probablement un entraîneur qui a une relation dans le passé avec ce nouveau GM-là. Écoute, c'est bizarre. T'sais. Il n'y a pas eu de succès. Ben, il y a eu du succès un petit peu à New Jersey. Il a amené l'équipe en finale de la Coupe Stanley. À San Jose, il y a eu un petit peu. Mais là, de voir que ça marchait pas à San Jose avec l'équipe qu'il y avait. Puis là, tu te fais congédier, mais là, tu t'en vas à Vegas. C'est comme si c'était une deuxième chance sur un plateau là, pour un entraîneur-chef de faire ça. Mais écoute, c'est un choix qui me surprend, c'est sûr.
OK. Parle-moi du Canadien un peu. Tout le monde, depuis deux semaines, s'interroge à savoir s'il faut échanger Price et Weber. Mais hier, Pierre Lebrun du réseau TSN a été très clair. Il a dit « J'ai parlé avec Marc Bergevin. Marc Bergevin, il répondra même pas au cellulaire si quelqu'un l'appelle pour Weber et Price. » Selon toi, est-ce que c'est un message qu'il va envoyer à ses joueurs?
Ben, c'est sûr. C'est sûr que probablement il veut mettre les choses au clair. Il veut enlever cette distraction-là, si on peut dire. Parce que ça s'en vient, là. Ça s'en vient la date limite des échanges. Tout dépendamment de ce que l'équipe va faire dans les prochaines semaines. Est-ce que le Canadien va être vendeur? Est-ce que le Canadien va essayer de s'améliorer pour peut-être faire une dernière poussée? Fait que tu sais, je pense qu'il veut enlever cette distraction-là au niveau du vestiaire, puis à Claude Julien aussi. Mais tu sais, moi, je prendrais pas ça comme garantie que ça n'arrivera pas. Il y a aucun joueur là qui, dans un mois, il y a une équipe qui vient cogner à la porte, qui appelle Bergevin, puis il offre, je sais pas, tu sais... Je lance de même deux choix de première ronde, puis un jeune espoir pour Carey Price. Et je pense que le discours va changer. Moi, je crois que Weber va rester avec le Canadien. Il doit rester avec le Canadien jusqu'à la fin de l'année, justement pour calmer les jeunes, amener l'expérience. Tu sais, c'est le capitaine. Quand tu passes des séquences sans victoire comme le Canadien a fait, c'est important d'avoir un gars comme ça qui l'a probablement vécu, parce que quand tu perds, ben c'est là que des choses peuvent arriver dans la chambre, les gars se pointent du doigt, ça se chicane, tu sais, il peut y plein de choses, mais quand tu as un gars comme Weber, il peut se lever dans le vestiaire, puis lever la voix, puis les choses se calment. Tandis que Carey Price, je pense pas que c'est le leader qui se lève dans la chambre puis qui fait du ra-ra-ra, ou tu sais, qui apporte cette chose-là à l'équipe. Fait que moi, je prendrais ça là, que c'est plus pour enlever la distraction là, au niveau de l'équipe présentement.
OK. Est-ce que c'est pas difficile, parce que quand t'es joueur de la Ligue nationale, t'es payé puis tu fais ta job, là, mais dans quel état d'esprit tu penses se retrouvent les joueurs du Canadien actuellement? Perd 8 games, gagne 2 games, perd une game, gagne 3 games, il y a un gars qui est blessé, il y a un gars qui revient. C'est quoi qui se passe, t'as l'impression, dans le vestiaire actuellement?
Ben, ça doit être frustrant. C'est une saison très frustrante. Je me mets à la place d'être un joueur du Canadien. Je serais frustré, c'est sûr, mais en même temps, t'es un professionnel, faut que tu te présentes à chaque rencontre. Mais mettons, je prends Philippe Dano, qui est un Québécois qui fait face à la musique à tous les jours avec les médias, il fait bien ça pour être fâché, pour être frustré, mais amène tout le temps un sourire à la caméra, tout le temps des bonnes réponses, tu sais. Si c'est ta job, t'es un professionnel, surtout si t'es Québécois, t'as pas le choix de faire ça. Mais en même temps, comme je dis, ça doit être une saison qui est difficile, frustrante. Puis tu sais, à un moment donné, je l'ai vécu une fois à Philadelphie, une saison comme ça, puis là, tu le vois, plus que la saison avance, plus tu te dis, ouais, on est là, mais tu sais, faut être réaliste, ça va être dur en call-in de faire les séries. Puis tu sais, tu perds, puis t'aimes pas ça, puis t'as peur de devenir habitué à la défaite. T'sais, après une défaite, t'es soit être fâché, t'es plus être déçu, t'es toujours avoir un goût amer, mais là, à un moment donné, tu perds, c'est comme si ça devient quasiment naturel. Tu deviens habitué à ça, tu deviens comme je veux pas dire une équipe perdante, admettons, l'expression être un loser, tu sais, être un perdant tout le temps, fait que c'est ça qui est épeurant, c'est ça que t'aimes pas, puis Mais à un moment donné, ben, tu fais face à ça que probablement ça va être une saison comme ça. Ça doit être vraiment frustrant présentement d'être un joueur du Canadien, là. Même si là, tu repars vers le haut, mais tu te dis, Colin, c'est loin, Colin, ça va être tough vers les séries. Est-ce qu'on est, tu sais, un joueur qui est là, admettons comme Dano, on prend Dano comme exemple, qui va être avec le Canadien encore pour plusieurs années, je pense. Peut-être qu'il aimerait mieux que, regarde, on est une équipe qui va vendre, on va aller chercher des jeunes, on va rebâtir. Comme qu'on avait fait nous autres à Philadelphie en 2006-2007, je me rappelle pas. Puis c'est sûr, on était une destination de choix là, pour les agents libres. Mais on avait changé Forsberg, on avait Zetnik à la défense, on avait changé Malarov qu'on avait à la défense, on avait changé tous nos vétérans pour des choix de première ronde ou des choix des jeunes espoirs qui ça marchait pas ailleurs. Puis c'était tous des choix de première ronde, je m'en rappelle. Il y avait été chercher Coburn à Atlanta, Parent à Nashville, tous des choix de première ronde, mais ça marchait pas avec leur organisation. Puis par la suite, on avait été vraiment agressifs sur le marché des agents libres, Daniel Brière, Kimo Temenen, Scott Hartnell, puis on est reparti tout de suite vers le haut rapidement. Tu sais, je dis pas que le Canadien va être capable de faire ça, parce que je me dis, on était une destination de choix pour les agents libres, mais la saison était difficile, mais on savait que le futur allait être rapidement beau pour nous autres à Philadelphie.
OK, parle-moi un peu de Philip Forsberg hier qui a réussi un lacrosse goal. Le joueur transporte la rondelle derrière le filet, puis un peu comme au jeu de lacrosse, ben réussit à déjouer le goaler. Svechnikov a fait ça deux fois. Ça remonte aux années 90 où un joueur de l'Université du Michigan a fait ça pour la première fois. Sidney Crosby l'avait fait dans un match junior avec l'Océanique contre les Remparts. Qu'est-ce que tu penses de ce but-là? Je sais que c'est très, très, très spectaculaire. Tu dirais que j'ai une équipe atome de hache. Je suis à peu près convaincu que tes jeunes essaient. Ils réussissent peut-être pas tous, mais je suis convaincu qu'ils essaient cette feinte-là dans vos pratiques. C'est quoi la suite des choses pour ce mouvement-là, là?
Ben moi, je pense que plus qu'on va voir des buts comme ça, plus que je pense qu'il va arriver un règlement éventuellement, que tu n'auras pas le droit de le faire. Oui, c'était tu sais, je pense que tu avais peut-être un ou deux joueurs qui pouvaient le faire avant, mais là, les gars sont tellement bons, pratiques, comme tu dis, à tombe 2A, ils sont pas capables de le faire, mais dans la chambre, là, tu sais, ils font dans la chambre, ils font avec la palette, là, à l'envers, l'autre bord, à l'envers, avec la palette qui, on dirait, qui colle, puis ils sont capables de la prendre, la palette, la rondelle, sa glace, ils sont peut-être pas capables de faire ce fameux but-là. Mais tu sais, ça devient que les joueurs maintenant sont tellement talentueux qu'ils sont capables ils seraient capables de le faire. Il y en a plusieurs qui sont peut-être capables de faire ce style de but-là. Mais pour les gardiens, ça devient quasiment impossible à arrêter. Puis en même temps, c'est quasiment un high stick, un bâton élevé dans la face du gardien de but. Fait que oui, c'est beau, c'est vraiment exceptionnel faire ça. Moi personnellement, je suis pas capable. Fait que je leur lève mon chapeau. C'est vraiment. Ça démontre le talent que ces gars-là ont. Mais si on le voit de plus en plus, ce style de but-là, je suis persuadé là, que ça va devenir un règlement, puis tu pourras plus faire ça, ou tu vas pouvoir le faire, mais il va falloir que tu gardes ton bâton vraiment bas au niveau de comment je fais ça, pour pas que ça soit un bâton élevé.
Ouais, c'est ça, parce que puis il y a la notion de transport aussi, hein. Il y a un long bout, tu sais, on peut pas. Quand on ferme la main, il faut la mettre tout de suite devant nous, la rondelle, Simon, avant de procéder à autre chose. On ne peut pas se promener avec la rondelle dans notre gant. Mais quand survient un but comme celui d'hier de Forsberg avec Nashville, ben, il y a une notion de transport. Il transporte la rondelle, là.
Ah oui, puis tu sais, éventuellement, si les gars sont vraiment, vraiment bons, Dan, peut-être que le gars va apprendre, puis il va transporter sa palette un bon bout de temps à sa glace, puis il va arriver, puis il va lancer comme à la crosse, un lancer comme ça, tu sais, fait que... Ouais. Faut que ça reste dans le mode hockey, si on peut dire. Fait que, mais tu sais, je serais pas surpris que ça arrive un jour. Les gars sont tellement bons, talentueux avec ça. Tu sais, peut-être aussi faut s'ouvrir à ça. Regarde, c'est la réalité, faut l'accepter. Mais c'est pas pour moi, c'est je voudrais pas voir ça. Fait que si on le voit de plus en plus, je serais pas surpris que la Ligue nationale fasse un règlement pour ça.
Parfait, gros merci Simon, bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir, Dan. Merci, toi aussi.
Salut bien. Simon Gagné, notre expert du mercredi, ancien joueur de la LNH. Évidemment, Simon n'a plus besoin de présentation à Québec. Il a joué 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey. On a le bonheur et le privilège de lui parler chaque mercredi dans l'avant-match.